Europe 1. Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Bern. Nous sommes à l'orée de 2 heures d'histoire, pas du tout scolaire. Au contraire, historiquement vôtre, c'est chaque après-midi l'histoire avec le sourire. À travers 3 personnages, bon, sauf aujourd'hui. Ils seront 6, puisqu'on va s'intéresser au duo d'amis improbables de l'histoire. Un peu comme celui que je forme avec vous, Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui on va se pencher sur cette alchimie étrange qui s'opère parfois entre deux êtres que tout semble opposer.
Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre.
À chaque fois Stéphane, comme vous et moi, deux étrangers qui se rencontrent et à la clé, une amitié étonnante. Au programme de ces duos d'amis improbables, Stéphane.
Oui, alors les personnalités du jour, nous aurons le peintre Claude Monet, et l'homme politique, grande figure de la Troisième République et de la guerre de 14, Georges Clémenceau. Et oui, ils étaient très proches amis. Et puis, la chanteuse Édith Piaf
et le poète...
C'était de l'amour.
Oui, ça, c'est vrai.
Je vous parle d'amitié. Le poète Jean Cocteau. Ils sont d'ailleurs morts le même jour. Je ne sais pas si c'est ainsi. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une amitié encore bien vivace aujourd'hui, qui transcende les cultures et les styles, n'est-ce pas ?
Oui, alors c'est une relation qui transcende vraiment tout. Hein. L'un a été le joueur de basket le plus scandaleux de l'histoire de la NBA avec ses tatouages et ses virées d'avant-match à Las Vegas. L'autre était au collège avec moi, un Nord-Coréen déjà soupolé à l'adolescence. Avec les copains, on aimait se moquer de lui, on lui jouait des tours comme lui voler ses babybelles à la récré. On a donc une part de responsabilité dans le dictateur qu'il est devenu. Je vous parle de la très belle amitié entre Dennis Rodman et Kim Jong-un. Vous allez voir, c'est assez bouleversant.
Oui, alors, nous avons aussi plus que des chroniqueurs autour de nous. Nous avons des amis.
Oui.
Alors, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour messieurs. Alors aujourd'hui, je vous emmène pas très loin d'ici. Voyez la Tour Eiffel, hein, pour nos auditeurs, les locaux d'Europe 1 ne s'en trouvent pas loin. Eh bien, il y avait une petite île autrefois qui depuis a été intégrée au Champ de Mars, qu'on appelait l'île Mackerel. Oui, je lis, vous allez voir où je veux en venir.
Tout à coup, ça nous intéresse beaucoup.
Alors oui, ça va vous intéresser. Parce que ici passait, Mackerel en fait veut dire mâle querelle. C'est pas du tout un lieu de prostitution, c'est un endroit où les bretteurs, on les appelait les raffinés et d'honneur, d'aller se battre et apprenaient les bottes imparables pour pouvoir trucider leurs adversaires. Et notamment, il y avait un familier de ce lieu qui s'appelait le chevalier d'Andrieux et à 30 ans, il avait déjà tué 72 personnes. Donc vous, messieurs, aujourd'hui, vous évoquez les amitiés improbables. Eh bien moi, je vais évoquer deux ennemis jurés dont le duel dura 19 ans, le plus long duel de l'histoire de France.
Vous prenez le contre-pied de notre thématique. Avec nous en studio, David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on s'est rendu compte que l'exercice physique était bon pour la santé. On pense qu'on l'a toujours su.
En fait, non.
Et scientifiquement, on l'a prouvé qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais raconter cette petite histoire.
Churchill disait même qu'il ne fallait pas faire de sport. Oui. Comme c'était le secret de sa longévité. C'est vrai, hein, Stéphane, vous confirmez.
Absolument. D'ailleurs, je suis ce principe.
ça marche.
Alors, oui, Clémentine nous parlait d'une île. Eh bien, Olivier Pouls va nous parler d'une autre île.
Oui, moi aussi, je suis disciple comme vous, hein, mon cher Stéphane, de la Winston Churchill Rio, on pourrait dire. Oui, alors, petit sondage, tiens, est-ce que vous prenez des îles flottantes quand vous allez au restaurant en dessert ?
Quand les restaurants ouvrent, oui, le plus souvent possible, effectivement, on adore les îles flottantes.
Mais probablement, vous pensez savoir ce que c'est, mais dans 99,9% des cas, c'est pas une île flottante qu'on vous sert, c'est
comment
pas autre chose.
Qu'est-ce que vous racontez ?
Vous saurez plus
avec de la viande, en fait, on ne sait pas. Mais c'est avec de la viande.
Pas de complotisme dans notre émission, Stéphane. Je suis choqué personnellement. Olivier ? Une île flottante, c'est une île flottante.
Pas du tout.
Enfin, Stéphane, nous sommes amis, bien sûr, mais qui aime bien châtie bien. Je sens que je vais encore sacrément vous châtier avec mes questions pièges durant notre quiz Burn to be Alive aux alentours de 5h moins le quart. En attendant, restons amis et découvrons notre première amitié improbable du jour. Claude Monet aimait la peinture, Clémenceau l'infanterie, et pourtant ils étaient archipotes.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
L'histoire commune de notre duo Monet-Clémenceau commence dans la fougue de leurs 20 ans. Nous sommes dans le Paris des années 1860. 10 ans ont passé depuis que Napoléon III a remis la couronne au goût du jour. Il a rétabli l'Empire après un habile coup d'État. Alors, dans les sphères étudiantines du quartier latin, la révolte républicaine s'organise. Et un certain Georges Clémenceau compte bien y tenir un rôle. C'est un étudiant en médecine qui a la désobéissance dans le sang. Son père est un républicain convaincu et tout comme lui, Georges se mue en pourfendeur du Second Empire. Il distille ses idées politiques dans de petits journaux contestataires et cet engagement passionné lui vaut quelques soucis, comme un aller direct vers la case prison où il passera 3 mois. Claude Monet, quant à lui, est un jeune peintre en provenance du Havre. C'est un esprit rebelle qui expérimente la vie de bohème. Il se plaît dans les cafés de la Nouvelle Athènes et respire loin des ateliers studieux des Beaux-Arts. En quelques années, il s'est créé une petite réputation de caricaturiste et empoche quelques sous grâce à son coup de crayon. Mais il est à Paris pour peindre et ses toiles ne trouvent pas d'acquéreur. Car à l'époque, pas de galerie d'art, le jury du salon est roi et impose ses normes artistiques sans saveur. Monet s'y heurte, mais refuse que les brigades de la morale le verrouillent. L'un s'oppose à l'art officiel, l'autre au régime. Monet et Clémenceau se battent pour la liberté et se rencontrent dans les cercles frondeurs. Mais appelés par un destin truculent, ils se perdent de vue pendant quelques décennies. Le temps que Clémenceau prenne part à la Commune de Paris, fasse tomber l'Empire et se fasse élire député. Qu'il se révèle grand orateur dans l'hémicycle avant de tremper dans les premiers scandales de la Troisième République. Le temps que Monet, lui, s'exile à Londres, en Hollande, s'impose comme chef de file des impressionnistes et qu'après des années de misère, il trouve enfin un allié de taille, un marchand d'art qui expose ses toiles. Et voilà que 25 ans plus tard, les deux obstinés se retrouvent. Monet s'est installé dans un petit village de l'Eure. À Giverny, il peint au milieu des iris et des dahlias dans un atelier à ciel ouvert. Clémenceau y est vite convié par le biais d'un ami commun. Les voilà complices, tous deux passionnés d'art japonais et bientôt rapprochés par leur engagement pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Les rencontres au bord de l'étang au nénuphar de Monet sont de plus en plus fréquentes. Pour aller à Giverny, Clémenceau prend le train au départ d'un symbole de la révolution industrielle, la gare Saint-Lazare, que Monet avait peinte. Mais on n'arrête pas le progrès et bientôt, eh bien, il préférera l'automobile. Loin des arbres fruitiers, le duo séjourne à Londres. Sur les bords de la Tamise, Clémenceau observe son infatigable ami peindre le brouillard jaune qui efface le Parlement et la Chambre des Lords. En 1914, la Grande Guerre éclate. Les combats font rage dans les tranchées boueuses. Alors, le sénateur Clémenceau enfile ses bottes pour soutenir les troupes. Et sur le front, c'est un terrible spectacle. Des milliers de soldats ont péri et la guerre a détruit les paysages immortalisés par les pinceaux de Monet. Celui qu'on appelle le tigre sort ses griffes. Il s'indigne de l'action d'un gouvernement qu'il méprise et entre deux tribunes, il écrit à Monet. À Giverny, le paradis vert est épargné par l'ennemi. Le peintre est retranché derrière ses murailles de fleurs. Il consacre son temps à de nouvelles toiles et pas des moindres. Du haut de son 1m65, le vieil homme a eu l'idée d'une série de tableaux monumentaux. 2 mètres de haut pour 6 mètres de large. De l'eau, le reflet du ciel et des fleurs aquatiques. Le grand atelier se transforme en mare au nénuphar. En 1918, lorsqu'on signe l'armistice, Clémenceau triomphe. Il est devenu président du Conseil et partout en France, on l'applaudit. Dans le calme de son Éden, Claude Monet veut lui aussi célébrer la victoire. Il fera don à l'État des immenses toiles qu'il est en train de peindre. Et cela par l'intermédiaire de Clémenceau, son héros, ami, se perd la victoire dont il est si fier. La décision est prise. Pendant que Monet poursuit sa série de 22 panneaux, on cherche le musée qui mettra en lumière ses grandes décorations. Le temps passe et Clémenceau fêtera bientôt ses 80 printemps. Alors, le vieux héros de la nation se retire de la vie politique et part trouver un peu de quiétude en Vendée. Sur la terre de ses ancêtres, il trouve une maison qui fait face à l'océan et écrit des lettres à son ami Monet depuis sa fenêtre. Lui aussi a la main verte. Alors, comme le vieux peintre, il se consacre à l'entretien d'un jardin. Les fleurs ont ici poussé sur les dunes et sont balayées par les vents. De quoi inspirer Monet qui débarque bien vite chez son ami. Et cette fois-ci, c'est Monet qui entre dans le jardin de Clémenceau. Au milieu des chardons bleus et des anémones, on parle bulbes et plantations.
Ça devait être super sympa.
Ah oui. Mais bientôt, cette amitié de longue date va connaître quelques tumultes.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Deux amis improbables, c'est nous Stéphane, mais c'est surtout le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Claude Monet et Georges Clémenceau, qui se sont rencontrés étudiants, engagés dans les cercles frondeurs, se sont perdus de vue avant de se retrouver. Une amitié qui va connaître quelques tumultes, vous nous disiez Stéphane.
Oui Mathieu, Monet et Clémenceau sont maintenant octogénaires. L'ancien héros politique profite des joies de la retraite, mais le peintre a fait une promesse. Il doit offrir une série de toiles à la France, et cela va provoquer, on le disait, quelques frictions dans le duo. Le caractère impétueux de Claude Monet entache cette amitié sans nuage, car le peintre tarde à livrer les toiles qu'il a promises à l'État. Il peint, retouche, enrage, crève ses tableaux, les brûle, pleure, puis recommence, et ce ballet reprend sans fin. Car le peintre a pris de l'âge, il sait que ses jours sont comptés. Signer ses toiles, arrêter de peindre, c'est un peu comme dire adieu à la vie. Alors il annonce qu'il se rétracte, sa promesse à la nation ne sera pas tenue. Georges Clémenceau a toujours soutenu son ami, mais cette fois-ci, ses nerfs sont mis à rude épreuve. Alors il n'hésite pas à rugir. Il est profondément blessé et annonce à son vieil ami qu'il ne veut plus le voir. Mais Monet est une bourrique obstinée. Alors Clémenceau n'a plus qu'à mettre sa fierté de côté. Les deux amis se rabibochent pour toujours. Georges l'a compris, Claude vivant, les toiles ne sortiront pas de son atelier. Et le 5 décembre 1926, les oiseaux cessent de chanter dans le jardin de Giverny. La mort vient de séparer pour toujours les deux frères enragés. À 86 ans, Claude Monet a rendu son dernier souffle. Depuis quelque temps, un mal incurable lui rongeait les poumons. Trois jours plus tard, dans le cortège silencieux qui emmène le cercueil du peintre vers le petit cimetière du village, Georges Clémenceau est accablé par la tristesse. Et le tigre qui a perdu là son meilleur ami honore la mémoire de Monet par un geste symbolique. Le cercueil est recouvert d'un drap noir. Alors, il s'empresse de le remplacer par un tissu fleuri aux couleurs des pervenches, des myosotifs et des hortensias que son vieux frère aimait tant. Pourtant, ce jour-là, ni fleurs ni couronne. C'était la volonté de Claude Monet. La mort est si ordinaire. On n'allait tout de même pas sacrifier les fleurs de son précieux jardin. Quelques semaines plus tard, on vient chercher le cycle des nymphéas dans l'atelier de Monet avant de l'installer dans son nouvel écrin parisien. Les toiles prennent place dans une serre abandonnée qui a été construite dans le jardin des Tuileries sous le Second Empire. Sous l'immense verrière du musée de l'Orangerie, la dernière œuvre de Monet capte la lumière. Sur quelques panneaux, les traits sont inachevés. Le vieux Monet s'est accroché à la peinture jusqu'à la mort. Et depuis presque 100 ans maintenant, son jardin illumine de quiétude les visiteurs en mal de verdure qui viennent le contempler au musée. Aux côtés des toiles, un buste en bronze de Clémenceau veille.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du duo Monet-Clémenceau, deux amis extrêmement improbables, nous sommes avec l'avocat au barreau de Paris et écrivain Alexandre Duval-Stalla. Bonjour.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Alexandre Duval-Stalla.
Bonjour Stéphane Bern.
Vous avez écrit une biographie croisée, Claude Monet, Georges Clémenceau, une histoire de caractère aux éditions Gallimard, qui a récemment été rééditée dans la collection Folio. Vous êtes avocat, mais là vous ne défendez pas l'un par rapport à l'autre. Vous les appréciez autant l'un que l'autre, ou vous avez quand même un coup de cœur, un préféré?
Oh bah quand on aime, on ne compte pas. Donc les deux me ravit l'un et l'autre. C'est vrai qu'ils ont tous les deux. En fait, je les aime un peu comme un avocat, c'est-à-dire essentiellement pour leurs faiblesses leurs défauts.
Ils en ont pas mal des défauts. C'est deux fortes têtes quand même, hein, tous les deux.
Ces deux caractères, effectivement. Alors, quand on a du caractère, on a souvent mauvais caractère. Et c'est deux forces de la nature, deux énergies, en fait. Et ces énergies ne supportent pas les embûches.
Et ils se sont pas réconciliés avant la mort de Monet. Mais c'est terrible, à la fin de l'histoire. Moi, j'attendais un peu un happy end, Stéphane. Je vous cache pas que j'étais quand même un peu déçu. Et là, on reste sur une note triste, finalement.
Alors, ils se réconcilient quand même, je préfère
Stéphane n'a pas tout dit.
En fait, à la fin, comme Monet finit par finir ses tableaux et accepter qu'il soit à l'Orangerie, il y a cette réconciliation et puis donc ce moment extrêmement émouvant où Clémenceau arrive à l'enterrement de Monet et va retirer ce voile noir pour mettre de couleur.
Ouais, c'est un beau symbole.
Et être en larmes vraiment devant le cercueil de son ami.
Mais au fond, c'est ces deux amis tout à fait improbables qui se sont beaucoup apportés mutuellement. D'ailleurs, Clémenceau a aidé Monet à un moment crucial de sa vie.
Alors, je crois qu'il y avait chez Clémenceau une profonde admiration de l'artiste, de l'œuvre extraordinaire de Monet. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on réalise pas, mais ça a été un combat extraordinaire pour vaincre la peinture officielle et donc
c'est
se battre.
Le Bichemin de l'époque, quoi, qui était fermé à ce type de création.
C'était complètement fermé. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les impressionnistes, c'est une nouvelle renaissance française, celle-là. C'est-à-dire que vraiment, ça a changé la peinture et ça a ouvert la peinture moderne, la peinture contemporaine. Je veux dire, il n'existe pas d'autre mouvement en peinture qui a autant ouvert en fait les voies à tous les artistes qui ont suivi.
Est-ce qu'on peut imaginer, pardon, si c'est une question plutôt artistique, mais est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu de relais politiques, comme par exemple effectivement Clémenceau, est-ce que l'impressionnisme aurait pu ne jamais connaître la reconnaissance qu'elle a eue en tant que courant?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la République et l'impressionnisme finalement se sont construits ensemble, c'est-à-dire contre le Second Empire. Et c'est vrai que, bon, il se trouve que c'est une conjonction historique, hein, des circonstances historiques, et donc l'un va avec l'autre d'une certaine manière. Même si dans les impressionnistes, vous avez aussi des gens qui étaient à la fois monarchistes ou très Second Empire, hein, comme Cézanne par exemple.
Oui, c'est vrai qu'a priori cette amitié est étonnante, mais elle s'est construite, elle s'est forgée en quelque sorte sur leur côté frondeur qui les a rapprochés au moment de leur rencontre.
Alors oui, alors quand ils ont une vingtaine d'années, ils sont donc le Quartier Latin. Je ne sais pas si c'est tant la fronde que de faire la fête qui les a réunis dans un premier temps.
Parlez-nous de ce Paris où on fait la fête, parce qu'on a un peu oublié ce que c'est quand même. Hein.
Parce qu'il faut savoir que voilà.
C'était la folie.
Pendant un ou deux ans, donc Monet et Clémenceau vont quand même vivre la vie parisienne, et je dois vous avouer qu'ils n'ont pas beaucoup étudié malgré leur demande paternelle, et ils ont beaucoup fait la fête, et ils avoueront même l'un et l'autre qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé pendant ces deux années. Je crois qu'ils ont surtout goûté aux joies de la vie parisienne. Est-ce que c'est une manière de fronde? Ça, je laisse.
Mais ce qui fait qu'ils se rejoignent, c'est leur côté anti-académique quelque
part.
Alors,
effectivement, en revanche, soyons un peu plus sérieux pour la suite. C'est vrai que quand ils se retrouvent à peu près à 50 ans, ils sont tous les deux dans des combats, l'un politique et l'un esthétique, contre effectivement...
Ils sont d'accord dans leur combat
Ils sont d'accord, ils se retrouvent. C'est vrai que Monet n'a pas forcément la tête politique, mais il aura toujours, en tout cas, il sera toujours au soutien des grands combats de la Troisième République, l'affaire Dreyfus notamment, le soutien à Zola. Et donc, tous deux vont vraiment être des frondeurs. Ils vont vouloir imposer une autre manière de voir, une autre manière de peindre, une autre manière de gouverner.
Mais c'est vrai que la France qui se divise au moment de l'affaire Dreyfus, eux, au contraire, sont très soudés à ce moment-là. Vous le disiez, Alexandre Duval-Stalas, c'est le soutien à Zola, mais aussi cette cause, celle de l'innocence du capitaine Dreyfus.
Oui, c'est l'innocence du capitaine Dreyfus qui n'allait pas de soi hein, dans les milieux Clémenceau. Dans un premier temps, on regarde ça avec circonspection, et puis ensuite va s'engager, et il va s'engager parce qu'il a bien conscience que là, il y a un problème de justice, c'est-à-dire que le droit n'a pas été rendu comme il aurait dû être, et puis petit à petit, d'être convaincu par l'innocence de Dreyfus. Et c'est vrai que Monet, une des rares interventions politiques, c'est quand même ce soutien à la fois à Dreyfus et à Zola, et donc son intervention dans le champ politique.
Alors, on a compris qu'entre les deux hommes, il y avait une grande admiration réciproque, mais il y avait aussi une forme d'opposition. Sur quoi ils se sont opposés
Alors, j'allais dire, ils se sont plus opposés à d'autres qu'ils se sont opposés entre eux. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un élément de leur amitié qui est très très fort, c'est le jardin. Ils sont tous les deux des grands jardiniers, et donc... Beaucoup de leurs discussions sont sur comment fonctionne leur système d'arrosage, comment ils déversent des litres d'eau dans leur jardin, comment ils vont chercher telle ou telle graine. Et donc, il y a des passages et des lettres fabuleuses sur leurs échanges.
Ça parle bulbe, visiblement. Voilà.
Et on découvre, vous le dites dans votre livre, Alexandre, une amitié fraternelle et familière. Au fond, on a l'image d'un Clémenceau, du tigre, certes, qui avait des fulgurances dans l'humour et dans l'esprit, mais quelqu'un d'un peu dur. Et là, on découvre un Georges Clémenceau plus humain, plus tendre, plus fraternel presque.
Il est extrêmement fraternel. Il y a vraiment, il suffit de lire les lettres entre Clémenceau et Monet pour voir comment Clémenceau va vraiment soutenir ce frère enragé, comme il l'appelle. Et donc, derrière la cuirasse du tigre, il y a quand même une sensibilité. Et ce qui en témoigne peut-être le plus, c'est aussi cette amitié amoureuse qu'il va avoir avec Marguerite Baldensberger, qui va être un peu l'amour de ces derniers temps, c'est-à-dire après la guerre, à partir des années 1920. Et là, il y a aussi un échange de lettres assez... Il faut savoir que Monet, comme Clémenceau, avait quand même un certain faible pour les femmes.
Mm-hmm. Oui, ça c'est...
Ah oui, c'est un euphémisme, j'ai l'impression.
D'une autre émission, ça rapproche.
Alors, Clémenceau, il aimait les femmes, mais c'était un amateur d'art, on l'a dit, il était fasciné par l'œil de Monet et son génie créateur. J'aimerais bien comprendre ce que Monet lui doit exactement. Vous dites qu'il l'a soutenu, c'est-à-dire quoi? Il disait, à l'époque où Monet n'était pas encore très connu, il le soutenait en disant que ses tableaux étaient exceptionnels, que c'était un grand peintre qui devait intégrer le panthéon des grands peintres, ou il le soutenait différemment, financièrement, ou en passant des commandes?
Alors, tous les artistes ont besoin d'être rassurés et qu'on leur dise régulièrement qu'ils sont des grands génies.
Stéphane m'appelle souvent pour me dire « Mathieu, rappelle-moi à quel point tu me trouves formidable. »
Non,
Stéphane, je le fais merveilleux. Bon. J'ai regardé Secret d'Histoire. Il dit « Comment tu n'as pas regardé Secret d'Histoire ?» Si, je l'ai regardé en replay. Très inquiet.
Donc, il y a cette partie-là qui est importante. En 1885, quand Monet fait la série des cathédrales, c'est le premier article en fait de Clémenceau, un article vraiment esthétique, d'art. Et là, il révèle d'une certaine manière au public le génie de Monet. Et donc tout au long de sa vie, c'est ce qu'il va faire. Il a tellement conscience que Monet est un génie de la peinture que tout son combat après les années, donc après la guerre, pour installer à l'orangerie les nymphéas, c'est vraiment un soutien. Enfin, il faut lire les lettres d'engueulade que Clémenceau adresse à Monet, parce que Monet a plusieurs choses. D'abord, il commence à être vieux, il a des problèmes de yeux. Oui. Et donc de cataracte, donc il doit se faire opérer, sauf qu'à l'époque, quand on se faisait opérer, c'était un coton d'éther pour se faire endormir. Et donc Monet est un peu chochote.
Et Clémenceau,
ancien docteur, évidemment, l'encourage. Mais bon, se faire charcuter les yeux à vif, c'est vrai qu'on est un peu, il y a un peu d'appréhension quand même.
Forcément.
Et donc il va vraiment soutenir ce qu'il faut savoir, c'est que Monet est un grand anxieux et donc il a beaucoup saccager des toiles, brûler des toiles, et donc il a besoin de ce soutien. Et vraiment, Clémenceau, c'est ce soutien, ce support permanent.
Et j'aimerais comprendre, est-ce que Claude Monet a été, aujourd'hui c'est une telle légende, est-ce que de son vivant il était déjà une légende, ou est-ce qu'il était simplement un grand peintre, ce qui est déjà pas mal, mais est-ce qu'il est mort en imaginant la postérité qu'il aurait?
Alors, il y a plusieurs phases, en fait. C'est-à-dire que jusque, en gros, dans les années 1890, il va être un peintre qui petit à petit va être connu, mais il va vraiment exploser en gros dans les années 1900. Et ensuite, lorsque les nymphéas vont être inaugurés en 1927, on est déjà passé à Picasso, à Braque,
On est sur une autre.
Donc, il est à chaque fois un peu en décalage, mais il reste pour tous ces grands peintres, pour Picasso, pour Matisse, vraiment celui qui a été pour eux leur génie, quoi.
C'est là qu'on voit, quand on est un génie, un grand peintre, vaut mieux avoir un bon copain. Et qui est bien placé en politique.
Écoutez,
non,
ça, Stéphane, quand on est un artiste, un grand artiste comme vous, c'est important d'avoir des connexions au plus haut niveau. Et de ce côté-là, vous avez bien mené votre barque aussi, Stéphane. Je dis bravo.
En tout cas, c'est passionnant. Ouais. Merci, Alexandre Duval-Stalla. Je rappelle le titre de votre excellente biographie croisée, Claude Monet, Georges Clémenceau, une histoire de caractère, aux éditions Gallimard, et édité en format poche folio. Merci beaucoup, Alexandre.
Merci à vous, Alexandre.
Merci, Mathieu.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec, comme tous les jours, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je vous ai promis de vous raconter le plus long duel de l'histoire de France.
Oui.
Et alors, ça se passe sous le Consulat et l'Empire. Et c'est un duel qui va durer entre 19 et 20 ans. Et un duel qui oppose un capitaine de hussards qui s'appelait Fournier, et que pendant la campagne d'Espagne de Napoléon, on appellera El Demonio. Oui, parce que c'était pas un tendre, ce Fournier. Et donc, duel qui oppose ce monsieur au capitaine Pierre Dupont de l'Étang, qui était l'aide de camp du général Moreau. On est en 1794 à Strasbourg, où stationnent les troupes françaises. Et Moreau charge son aide de camp d'interdire l'accès à Fournier à une réception qu'il organise ce soir-là. Pourquoi? Parce que Fournier s'est battu en duel contre un jeune homme qui était beaucoup moins doué que lui. Et donc, c'est pas classe. On parle de ça dans tout Strasbourg. Et donc, Moreau lui dit, écoutez, moi, je veux pas de ce gars à ma soirée. Voilà. Alors, il est très humilié parce qu'il a été publiquement éconduit. Et donc, il provoque Dupont de l'Étang en duel le lendemain matin. Et lors de ce premier combat, c'est Dupont de l'Étang qui blesse Fournier. Il a mal, mais au lieu de grimacer de douleur, il lui déclare « première manche. Et c'est parti pour 19 ans. Seconde manche un mois plus tard. Cette fois, c'est Dupont qui est blessé. Et les deux hommes décident de se rencontrer à nouveau tant qu'aucun des deux ne sera satisfait de leur duel.
Mais c'est à quoi leur duel? À l'épée?
À l'épée, bien sûr, ah oui. À l'épée. Et comme ils sont disciplinés, comme ils sont organisés, sont deux soldats, ils établissent une convention. Chaque fois que messieurs Dupont et Fournier se trouveront à 30 lieues l'un de l'autre, 30 lieues, 30 oui. lieues, vous savez, ça fait combien, 32?
Ah non, ça, je sais pas.
Les bottes de 7 lieues. Vous avez jamais dit combien ça faisait?
Oui, mais j'ai déjà oublié.
Bah, c'est 4 kilomètres à peu près. Donc, 7 lieues, ça fait 28 kilomètres. Donc, quand le petit poussé a les bottes de 7 lieues, il fait des bonds de 28 kilomètres. Alors là, c'est 30 lieues, 120 kilomètres. Donc, à chaque fois qu'ils seront à peu près 120 kilomètres l'un de l'autre, chacun fera la moitié du chemin et ils se rencontreront l'épée à la main.
Sympa
et
si, comme vie.
Si l'un des deux se trouve empêché, l'autre sera libre de faire toute la distance parce que son copain peut pas la faire. Alors, il est convenu aussi qu'aucune excuse autre que militaire ne sera admise. Alors, finalement, les relations particulières de ces deux hommes vont finir par faire partie de leur vie, parce qu'ils vont se retrouver quasiment une vingtaine de fois en 20 ans, et alors qu'au début de leur duel, ils peuvent pas se voir, ils sont ennemis jurés, va naître entre eux, avec le temps, une certaine complicité, une amitié un petit peu insolite. Bah oui, à chaque fois, finalement, ils étaient assez contents de se retrouver, ils se serraient chaleureusement la main, ils se respectaient, ces deux-là. Puis en plus, ils entretenaient une correspondance qui manquait pas de cocasserie, parce que ils s'appelaient en cher ami, je serai à Strasbourg le 5 novembre vers midi, vous m'attendrez à l'hôtel des postes, nous donnerons un coup d'épée. Et entre deux combats, tous les deux montent en grade en plus. Du coup, ils s'entrecongratulent. Mon cher Dupont, j'apprends que l'empereur, rendant justice à ton mérite, vient de t'accorder le grade de général de brigade. Reçois mes sincères félicitations au sujet d'un avancement que ton courage et ton mérite rendent naturel.
En fait, ils sont devenus potes. Ils croisaient l'épée, mais ils essaient pas de se tuer.
C'est pour ça que l'air de rien, je suis quand même venu un peu sur votre thématique. Quand même, un jour, ils tombent l'un sur l'autre, tout à fait par hasard, dans une auberge en Suisse. Ils n'échangent pas un mot. Ils sortent leurs épées et ils se ruent l'un contre l'autre devant leurs soldats respectifs, médusés, et puis à la fin du combat, ils tombent dans les bras de l'un de l'autre, et ce duel va se terminer le jour où Dupont décide de se marier. Là, il en a marre, ça finit de rire, il propose à Fournier une traque au pistolet dans un bois, et à la suite d'une ruse, il se trouve face à son adversaire qui a déjà tiré ses deux balles, alors que lui a encore son pistolet chargé, donc il lui dit, écoute, maintenant ça suffit, ta vie m'appartient, j'ai gagné, et donc je décide qu'on arrête. Et bien sûr, vous avez reconnu le thème de ce magnifique film de Ridley Scott de 77, Duelliste. Oui. Et en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie, cette histoire de Fournier et Dupont de l'Étang. Et tous les deux ont fait une très très belle carrière. Il y en a un qui est devenu général d'Empire et l'autre qui a été ministre. Est-ce que vous savez qui opposa le dernier duel officiel de l'histoire de France?
C'est un parlementaire, c'est ça?
Oui, c'était un duel parlementaire. C'était il y a 53 ans, le 21 avril 67.
Mais non.
Et si?
En 67?
Oui. Et c'était Gaston Defferre, qui était alors député maire de Marseille, et le député gaulliste René Ribière. Et il y avait un débat à l'Assemblée extrêmement houleux sur la fraude électorale, et à un moment, Defferre s'adresse à Ribière et lui dit « Taisez-vous, abruti !» Alors, Ribière, évidemment, est piqué au vif, surtout qu'il devait se marier le lendemain, donc en plus, ça a dû jouer. Il voulait plastronner devant sa future femme, et donc, il s'était jamais batté de sa vie, il a dû prendre 2 heures de cours d'escrime, alors que Defferre...
C'est léger, 2 heures de cours d'escrime.
C'est pas beaucoup, mais si vous voulez, bon, c'était un duel au premier sang, et Defferre, lui, s'était déjà battu en duel, mais au pistolet. Donc, ils se sont retrouvés en douce, dans le jardin d'une villa à Neuilly, il y avait un photographe de Paris Match, donc, si vous trouvez un vieux numéro.
On fait des duels pour les photos, maintenant.
Oui, si vous trouvez un vieux Paris Match des années avril 67, vous verrez les images du duel. Le duel a duré d'ailleurs 5 minutes. Ribière a été blessé sans gravité. Donc, voyez, on se battait pour taisez-vous, abruti. Ça peut paraître excessif, mais à l'époque, on ne plaisantait pas avec le point d'honneur. Le point d'honneur, c'est une notion définie sans ambiguïté par le code du duel du comte de Châteauvillard en 1836 comme le degré de susceptibilité qui peut varier de caractère et d'intensité suivant le tempérament et la position sociale de l'offensé. Autant vous dire que vu la tournure scandaleusement partiale du quiz Burn to be Alive, je ne serais pas autrement étonné, Mathieu, que Stéphane finisse par vous envoyer ses témoins pour un duel jusqu'au premier sang du côté du champ de Mars à l'emplacement même de l'île Malquerelle. Alors par contre, si ça peut durer moins de 19 ans, ça serait bien, messieurs, quand même.
Stéphane, est-ce que vous êtes déjà battu pour l'honneur?
Non, mais je pense que ça, avec le quiz, ça va finir par arriver. Je vais vous demander raison.
Et vous aurez le choix des armes. Oui, vous aurez le choix des armes, hein, Stéphane, parce que c'est vous l'offensé dans l'histoire.
Exactement.
Aiguisez bien votre épée, Stéphane, parce que justement, nous allons procéder au quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les amis, c'est l'heure du quiz, un moment toujours délicat de l'émission pour Stéphane Bern, un moment où Clémentine Portier-Kaltenbach accepte néanmoins le duel, aussi déséquilibré soit-il. Elle ne s'en cache même plus, elle le dit carrément.
Là, je ne vais pas m'élever jusqu'à vous, je vais plutôt descendre jusqu'à vous.
Merci Clémentine d'accepter de descendre vers Stéphane et de jouer à Bern to be Bella. Notre fameux quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane.
Oui.
Qui a dessiné et conçu le premier, la Tour Eiffel ? Gustave Eiffel, Stéphane Sauvestre ou Cornelius Starwood ?
Oh là, je suis sûr qu'il y a un piège là.
Alors, ce qui me paraît curieux, c'est que pour moi, c'était Koechlin, l'ingénieur qui avait dessiné la Tour Eiffel. Et là, redites-nous les noms là.
Alors, qui a conçu en premier la Tour Eiffel ? Gustave Eiffel, Stéphane Sauvestre ou Cornelius Swartout ? Oui, j'ai prononcé différemment parce que je m'étais trompé la première fois.
Que cloute là.
Il y avait un bureau des études, mais lancé par Eiffel, non ?
Stéphane, pour une fois, votre raisonnement est bon. Essayez de pousser la logique plus loin.
Ça devait être un ingénieur du bureau d'études qui n'était pas Eiffel et qui était un des deux autres, mais lequel ? Et ce nom à coucher dehors me dit rien du tout, là. Refaites le meuleux, là.
Swartout.
Swartout ?
Oui, ça se prononçait peut-être pas comme ça, hein. Cornelius de son prénom.
Et l'autre, j'ai jamais entendu ce nom de ma vie.
Stéphane Sauvestre.
Moi, je dirais Stéphane Sauvestre.
Découvrons la réponse.
Vous avez gagné !
Bien joué, Stéphane. Stéphane Sauvestre, c'est l'architecte en chef des entreprises Eiffel. C'est lui qui dessine le premier une tour avec de lourds pieds en maçonnerie, qui décide qu'il y aura deux plateformes et qui coiffe la tour d'une lanterne, qui la fait ressembler d'ailleurs un peu à un phare. Gustave Eiffel trouve ça super chouette, rachète le brevet et les droits et devient l'unique détenteur des droits moraux de la tour. Quant à Cornelius Swartout, c'est lui qui a inventé le moule à gaufres. Comme ça, vous êtes doublement édifié cet après-midi grâce à moi. Et oui, question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Depuis sa création, la NASA a joué un rôle essentiel dans le domaine du vol spatial habité, mais aussi dans l'exploration du système solaire, ainsi que dans l'histoire de la recherche spatiale. Autre progrès technique majeure de l'humanité, les WC japonais avec le petit G. Qui est le plus ancien ? La NASA ou ces WC révolutionnaires japonais ?
Oh non, écoutez là, non mais Stéphane...
Les WC avec le petit... Non, je m'élève contre ce mépris que vous opposez au petit WC japonais, parce que qui l'a déjà utilisé sait à quel point il est agréable, chauffant l'hiver, chauffant. Vous avez les fesses bien chauffées, et ça c'est un grand progrès dans l'humanité, parce qu'on est allé sur la Lune, à quoi ça sert ? Je vous pose la question, ça ne sert à rien, tandis que les WC japonais chauffants, ça sert à quelque chose.
Je suppose que c'est une préoccupation qui a davantage... concerner les Japonais que la NASA, donc disons que ce sont les Japonais qui ont inventé le Wawa.
Alors c'est pas la question. Là vous répondez. Quoi, non seulement vous n'avez pas la bonne réponse, mais surtout.
Vous avez demandé si c'était les Japonais avant la NASA, non ?
Qui est le plus ancien ?
La NASA. Attendez.
La NASA ou les WC japonais ?
Les WC japonais. Les WC japonais.
Non, les WC japonais, c'est forcément après la Seconde Guerre mondiale, non ?
Bah pourquoi ? Si la chasse d'eau est très ancienne, non ? Pourquoi après ?
Oui, mais le WC japonais. C'est une technologie. Exceptionnel, avec le petit G, vous.
Je m'en fous, je vais vous dire.
Ah oui, mais vous devez donner une réponse.
Eh bien, j'ai répondu, c'est le WC japonais.
Qui est plus vieux que la NASA.
Eh oui, voilà.
Vous avez gagné.
Elle s'en fout, mais même quand elle s'en fout, elle gagne quand même. Alors, le plus vieux, c'est effectivement le WC japonais 1957, et la NASA a été créée en 1958.
Ah ben voilà, mais je le savais bien sûr.
Et oui, et la petite la petite info en plus, puisque c'est une question qui vous passionne, les WC japonais, ce n'est pas japonais, c'est une invention suisse. Et oui, on la doit à Hans Maurer, on a appelé ça les WC japonais.
Non mais ça c'est bien
que...
vous Mathieu, toujours tirer la couverture à vous, c'est suisse.
Non,
c'est
juste qu'en fait, il tire la chasse d'eau à lui surtout.
Bon, bref, je suis désemparé.
Ah ben ça vous apprendra à faire des questions pareilles. Non mais je vous demande
un peu de dignité.
C'est
dans cette
monde
émission,
quand un même.
Peu de dignité.
Hein.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Durant l'Égypte ancienne, on aimait bien porter. Dans l'Égypte ancienne, on aimait bien porter des chaussettes à rayures. Vrai ou faux ? Concentrez-vous sur les chaussettes, Stéphane. Dans l'Égypte ancienne, on aimait bien porter des chaussettes à rayures. Vrai ou faux ?
Stéphane, le némès que porte le pharaon est bien rayé.
Non, j'ai vu ce week-end un formidable reportage sur les momies de Saqqara.
Ben, je l'ai vu aussi, c'était très intéressant.
Formidable.
Et alors donc, qu'est-ce que vous a dit ce documentaire, Stéphane ?
Il y avait des gens avaient des chaussettes colorées.
Dans l'Égypte ancienne, c'est ça que vous dites.
Donc, je ne sais pas si elles étaient à la Bayadère, si vous voulez, ou si elles étaient à rayures, oui. Mais je sais qu'il y avait plusieurs couleurs de chaussettes. Ça, parce que c'est... les momies avaient les horreur momies, d'avoir froid.
Les momies avaient des chaussettes à rayures.
Elles avaient des chaussettes à rayures parce qu'elles ne voulaient pas avoir froid.
C'est une bonne déduction. C'est une très bonne
je
déduction.
Je dirais oui. Vive les chaussettes à rayures dans les chiffres anciens.
Vous avez gagné.
Eh oui, Stéphane,
oh là
bravo,
là, bravo. Mais quelle success story aujourd'hui ce quiz. Alors, une équipe de paléontologues du British Museum de Londres a étudié une chaussette retrouvée à Antinoupolis, une cité romaine basée en Égypte. C'était une chaussette rayée rouge, bleu et jaune, vraisemblablement portée par un enfant. C'était elle, il y a 1700 ans. Par contre, on ne sait pas où est la deuxième. Ça, c'est comme toutes les chaussettes. Oui. Elle s'égare.
J'ai le même problème.
On a tous ce problème-là. Question numéro 4.
Clément. Les chaussettes de l'archiduchesse.
Bah faites la phrase en entier, sinon ça marche pas.
Non, je sais pas.
Sont-elles sèches ou arsichées?
Ah, vous êtes vraiment un orateur de génie, Stéphane.
Oui, vraiment, vraiment.
Alors, un point en moins pour Stéphane.
J'adore me planter l'après-midi sur Europe 1 pour que toute la France en ait conscience.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Si vous voulez bien un peu de Beethoven et sa lettre à Élise.
Au secours.
C'est vrai qu'on l'a un peu trop entendu. Si Beethoven avait été un peu plus honnête, il aurait intitulé cette bagatelle en la mineur « Lettre à Thérèse ». Vrai ou faux ?
Je sais.
Oui, mais Stéphane, on s'en fout.
Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a une histoire, en effet, d'une dédicace d'une des œuvres les plus célèbres de Beethoven à une illustre inconnue dont on n'est pas sûr de l'identité. Je dirais que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est Thérèse, mais est-ce que vous voulez faire une fine... allusion au Père Noël est une ordure. Thérèse, voilà ma lettre à Élise. Non, mais je dirais que c'est vrai.
C'est pas vraiment ça, le dialogue dans le Père Noël est une ordure.
Bon, alors je dirais que c'est vrai.
Thérèse Malfatti von Rohrenbach.
Vous avez gagné.
Stéphane qui continue de pianoter sur son téléphone portable sous la table du studio.
Pas du tout.
La réponse, effectivement.
Je peux vous annoncer une chose importante. Puisque je viens de terminer la livraison, en quelque sorte, à France Télévisions du Secret d'Histoire sur Beethoven.
Oh, magnifique.
Et donc,
magnifique.
J'ai fait la voix, on raconte l'histoire de cette Thérèse Malfatti, qui était la fille d'un Viennois, et Beethoven était fou d'amour de cette Thérèse.
Il l'a d'ailleurs demandé en mariage, mais elle a refusé.
Bah oui, bien sûr.
Bah pourquoi bien sûr?
Parce qu'un musicien sans le sou, non, il n'était pas encore sourd.
Il n'était pas sans le sou, Beethoven.
Il n'était pas fréquentable.
Pas... Oui. Puis il déménageait tout le temps.
Ah, c'est génial que vous fassiez un secret d'histoire sur Beethoven.
Mais vas-y, quelle faillotte. Vous êtes.
Non, c'est génial. Enfin, bravo, Stéphane.
Oui, n'oubliez pas que la rivalité, c'est le sentiment qui doit vous animer dans cette séquence.
Non, aujourd'hui, c'est deux amis improbables.
Voilà. Oui,
j'allais dire, j'en ai ta peau, Bruno.
Deux amis qui vont se déchirer sur la dernière question, la 5, avec. Toujours, comme d'habitude, trois propositions. Le plus rapide d'entre vous emporte la mise. Encore faut-il avoir évidemment la bonne réponse. 1970 en Birmanie, le dictateur Ne Win prend une décision concernant le code de la route pour son pays après avoir consulté son astrologue. Laquelle ? Trois propositions. Dorénavant, on conduira à droite dans le pays. Dorénavant, les sens interdits seront interdits. Dorénavant, on doit klaxonner deux fois quand on veut doubler.
On conduira à droite.
Non, à droite. Parce que je me souviens que c'était Rangoon, parce qu'ils étaient dans l'Empire vaguement, et ils ont adopté la conduite à droite.
C'est bien toutes ces précisions. Malheureusement, Stéphane, si on regarde la photo finish, c'est comme une course de 100 mètres.
Eh oui, j'en ai peur.
C'est Clémentine qui remporte ce point. Eh oui! En Birmanie, le dictateur Ne Win décide que tout le monde dorénavant conduirait à droite. On est en 1970. Seul souci, c'est qu'en Birmanie, les volants des voitures sont à droite car le pays appartenait à l'Empire colonial britannique. Du coup, les bus laissent les passagers au milieu de la route et pour doubler, on doit regarder par-dessus l'épaule du passager. 46 ans après, en 2017, il a été décidé que les voitures à portée auraient le volant à gauche. C'est bien qu'il ait fallu 46 ans pour rectifier ce petit problème de circulation. Aujourd'hui, il n'y a eu quasiment que des bonnes réponses. Il n'y a eu que des bonnes réponses.
Ah, on a un bon point.
Puisque même Stéphane, qui est quand même un peu moins fort, a eu la bonne réponse sur la dernière réponse. Mais bon, un temps trop tard, comme souvent, Stéphane. C'est le problème de votre vie, c'est d'arriver en second.
Exactement.
Mais c'était quand même une belle performance que je salue.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue dans la deuxième heure d'Historiquement Vôtre, qui, disons-le, est souvent mieux que la première, parce qu'il faut du temps à Stéphane pour monter en puissance.
Ah, bonjour,
c'est,
merci.
C'est ce côté diesel dont vous nous parliez l'autre jour. C'est con d'être un diesel à l'heure de la transition énergétique, mais on fera avec. Stéphane, je tenais à vous le dire quelque chose aujourd'hui. Si un jour, la vie t'arrache à moi, que tu meurs, ce qui est possible vu la différence d'âge, ou que tu es loin de moi... Ça vient du cœur, Stéphane.
Mon amour.
Oh, je suis très touché.
Puisque oui. Tu m'aimes.
Je suis très très touché par cette déclaration, autant que par la voix d'Edith Piaf. Merci Mathieu. Je suspecte qu'elle est juste là pour nous rappeler qu'on va parler d'Edith Piaf.
C'est pas faux.
Non pas de son amour pour Marcel Cerdan, mais de son amitié avec Jean Cocteau. Car aujourd'hui, on s'intéresse aux amitiés les plus improbables de l'histoire.
Oui, Stéphane, comme la nôtre, il y a de nombreuses amitiés incompréhensibles vues de l'extérieur, comme par exemple celle qui unit depuis près de 20 ans un grand black américain tatoué et un petit nord-coréen boudiné. Deux sacrés caractères qu'il vaut mieux ne pas énerver. Surtout celui des deux qui a les missiles. Je vous raconte cette après-midi l'incroyable amitié entre l'ex-basketteur Dennis Rodman et le pas ex-dictateur, hélas, Kim Jong-un.
Et sans oublier nos amis chroniqueurs. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines de l'effet bénéfique de l'exercice physique sur la santé, n'est-ce pas David ?
Exactement, c'est, en fait on pense qu'on a toujours su que c'était bon pour la santé de faire du sport, et en fait pas vraiment, en tout cas on avait une petite intuition mais on ne le savait pas scientifiquement, et je vais expliquer comment est-ce qu'on a découvert ça. Et
j'ai hâte d'écouter ça.
Ah oui, scientifiquement lui il a découvert que l'île flottante était beaucoup plus importante pour un corps en bonne santé que le sport. Olivier Poul, c'est notre expert gastronomique.
Oui, je vais vous parler de ce dessert que tout le monde pense connaître mais que je pense en réalité vous ne connaissez pas.
Ah, et puis moi, je vous donnerai le mot de la fin, Mathieu.
Chaque jour, une expression décryptée, décortiquée par vos soins, Stéphane, aujourd'hui ?
Bah écoutez, quelque chose qui me va bien, se prendre une veste.
Oh.
Je sais que ça ne vous parle pas à vous, mais vous êtes le bourreau des cœurs, mais à moi, ça fera remonter des souvenirs douloureux et même encore récents. Mais il faut dire, j'aime souffrir.
Vous aimez souffrir ? On en reprend tous les jours sur vous, Stéphane. Je ne sais pas quoi vous offrir pour votre anniversaire, mais un martinet, finalement. Pourquoi
je réinvente ma vie
oui, c'est
chaque
ça.
Jour avec
c'est
vous.
Tout de suite, Stéphane, elle avait des doutes concernant l'utilité de l'amour. Elle se posait même assez ouvertement la question.
L'amour, ça sert à quoi ?
En revanche, elle chérissait l'amitié, notamment celle qu'elle partageait avec Jean Cocteau. Stéphane nous raconte une dimension de la vie d'Edith Piaf qu'on connaît peu.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est une belle histoire d'amitié sur laquelle on n'aurait pas misé grand-chose. Et pourtant, Edith Piaf et Jean Cocteau se sont aimés pendant 23 ans. Il n'y avait que la mort pour séparer ces deux-là. Et voilà qu'en 1963, par une triste journée d'automne, elle est venue les emporter à quelques heures d'intervalle. Mais rembobinons un peu. Piaf et Cocteau ont vu le jour dans deux univers qui s'opposent. Cocteau passe son enfance dans un hôtel particulier parisien de la Belle Époque, et Piaf, qui naît sous les obus de la Grande Guerre, est élevé dans une maison close de Normandie. Le père de Jean est rentier, celui d'Edith saltimbanque de rue qu'il a fait mendier en chantant. Plus tard, dans les années folles, Jean Cocteau est un touche-à-tout infatigable. Il écrit, il dessine, il joue de la musique. Et quand il présente sa pièce, Antigone, il s'entoure des meilleurs. Coco Chanel au costume, Pablo Picasso au décor. Le dandy frivole compte dans son répertoire des contacts qui rendent jaloux plus d'un. Parmi ses copains, Marcel Proust, Sacha Guitry, Guillaume Apollinaire. Et dans l'autre monde, Edith quitte la crasse des rues de Belleville pour chanter dans les musicals populaires de Pigalle. Mais bientôt, elle change encore de décor. Et cette fois-là, la voici sur la scène d'un cabaret chic tout proche des Champs-Élysées. La môme Piaf signe chez Polydor et enregistre son premier disque. Fini la misère et la faim, au milieu des années 30, sa carrière est lancée. En février 40, la France de Pétain est embourbée dans la drôle de guerre. Edith Piaf a 25 ans et rien n'arrête son succès. Elle fait vibrer la scène de l'amiral dans son éternelle robe noire et son cœur chavire pour un homme. Et oui, la môme vit une passion orageuse avec le comédien Paul Meurice. Au même moment, Jean Cocteau est sur le point de lancer Les Monstres Sacrés, une pièce qui se joue sous les projecteurs du Théâtre Michel. Et à 50 ans, il écrit des lettres à Jean Marais, son bel amant, parti au front, dans la Somme. C'est à ce moment-là que la chanteuse à l'accent parigot rencontre enfin le dandy littéraire. Et c'est le coup de foudre. On se tutoie, on s'invite, on s'applaudit. Piaf voudrait qu'Cocteau lui écrive une chanson, mais l'artiste fait mieux. Il lui offre son premier rôle sur les planches. En s'inspirant des amours tumultueuses d'Edith Piaf et de Paul Meurice, Jean Cocteau a écrit Le Bel Indifférent. C'est un long monologue que Piaf interprète sur la scène des Bouffes Parisiens dès le mois d'avril. Mais elle n'y est pas seule, car son Paul Chéri y tient le second rôle. Piaf joue une femme jalouse et scellée face à un mari insensible. Elle a voulu parler, le secouer, le pousser à agir, il reste muet et indifférent. Affalé sur un divan, il est caché par un journal dont s'échappent les volutes d'un cigare.
Tiens, je vais compter jusqu'à trois. Si, quand j'aurai compté jusqu'à trois, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens, Émile, que je fais un malheur. Un. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8.
La presse est unanime. Cocteau vient de révéler une grande actrice. Après les représentations, le duo trinque au restaurant, se régalant de truffes et de grenouilles. Elle affirme qu'il est le Ronsard des temps modernes et lui dit qu'elle a le front de Napoléon. Edith Piaf.
C'est pas vraiment, oui. En termes de compliments, c'est pas donnant-donnant, quoi. C'est pas du non, win-win, là, sur le
c'est
compliment.
Pas la, c'est pas la première chose que non. Je trouverais à dire oui, à propos d'Edith Piaf. Enfin bon, bref. Edith Piaf et Jean Cocteau se sont bien trouvés. Il y a tant de choses qui les rapprochent. L'amour, d'abord. Car Edith enchaîne les passions. L'amour la fait vivre et vibrer. Elle épuise son inspiration. Alors, elle n'hésite pas, hein. Sur son tableau de chasse, Yves Montand, Georges Moustaki ou encore Marcel Cerdan, évidemment. Cocteau, lui, n'a jamais voulu qu'on lui colle une étiquette, l'amour. Oh, il l'a consommé avec autant de femmes que d'hommes dans sa garçonnière de la rue de Varennes. Et a tant aimé, les deux amis en ont connu des cataclysmes. Cocteau a dû surmonter la mort de Raymond Radiguet, l'écrivain dont il était fou d'amour. Et Piaf a perdu Marcel, la petite fille qu'elle avait eue à 17 ans. En 1949, plus que jamais, Edith a besoin du soutien de son ami. Une nouvelle tempête manque de la faire sombrer. Marcel Cerdan meurt dans un accident d'avion. Ce champion de boxe, elle l'avait aimé comme personne.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se...
Heures de rigolade, chaque après-midi sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on se poile, Stéphane? Non, c'était très bien. On donnait des frissons à chaque fois, cette
chanson.
C'est beau,
mais oui, mais c'est tellement beau. Dans son corps minuscule, Edith donne tout ce qui lui reste au public. Elle enchaîne les tournées, mais l'ivresse de la scène la consume à petit feu. Puis, elle prend goût à un cocktail dangereux, alcool et morphine.
Ah, c'est pas terrible.
Son foie est ravagé, Piaf est hospitalisé dans un semi-coma. Alors à nouveau, Cocteau l'apaise. Des cures de désintoxication, il en a fait plus d'une. Plus jeune, il enchaînait les pipes d'opium jusqu'à 60 par jour.
Ouais, alors qu'on sait, la limite, c'est 40, hein, on rappelle, hein, nos auditeurs, pour les pipes d'opium, c'est jamais plus de 40 par jour. Au-delà, c'est quand même très, très dangereux. Hein.
J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé, Mathieu, pardon. Je sais
il faut vivre, Stéphane, avec modération.
Mais, mais justement, pas comme ça, je veux pas vivre comme ça. Enfin, bref. Et c'est enfermé entre les murs blancs d'une clinique qu'il a écrit son roman « Les enfants terribles ». À l'été 1963, la môme Piaf part se mettre au vert. Elle se repose sous le soleil provençal, tout près de la villa de son ami Cocteau. Et du repos, Edith en a bien besoin. Elle a 47 ans, mais elle en paraît 20 de plus. Son corps est amaigri, elle est complètement minée par les excès d'alcool et les souffrances de la vie. Il n'y a plus rien à espérer. Le 10 octobre, au milieu des oliviers, elle passe de l'autre côté de la rive. Une hémorragie interne vient de l'emporter. Mais son nouveau mari, le jeune Théo Sarapo, ne veut surtout pas que la nouvelle s'ébruite. Edith doit s'éteindre à Paris, à côté des faubourgs et des music halls qui ont construit sa légende. Alors, dans le plus grand secret, on organise en pleine nuit le rapatriement du corps de la môme jusqu'à son appartement du boulevard Lannes. Le lendemain, 7h du matin, un médecin mis dans la confidence signe le certificat de décès. On y lit qu'Edith Piaf est morte à Paris. En fin de matinée, le téléphone sonne à Milly Laforêt. Cocteau décroche. C'est un journaliste de Paris Match qui se fait l'oiseau de mauvais augure. La nouvelle tombe. Piaf est morte. Jean Cocteau s'enferme dans son bureau pour écrire un hommage à sa fidèle amie. Mais son vieux cœur lâche. Il est 13h. À 74 ans, Jean n'a pas attendu pour rejoindre Edith au paradis des artistes. La légende retiendra qu'un triste jour de 1963, la France a perdu l'idole des faubourgs en même temps que le prince des poètes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de l'amitié étonnante entre Piaf et Cocteau, la môme et le poète, nous sommes avec l'écrivain Bernard Longeon, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Oui Bernard Longeon, vous avez publié Piaf Cocteau, la môme et le poète aux éditions de l'Archipel et Edith et ses hommes aux éditions du Moment. Comment expliquez-vous que cette amitié entre Edith Piaf et Jean Cocteau soit si peu connue? Une amitié, une complicité qui pourtant aura duré 23 ans.
Alors certes, cette amitié a duré le temps d'une génération, mais comme vous l'avez très bien expliqué Stéphane, ils proviennent de deux univers totalement opposés. Ils avaient des admirateurs de milieux très très différents. D'un côté, vous aviez les intellectuels pour Cocteau, d'ailleurs... Pour ses obsèques le 16 octobre 1963, on comptait bien quelques marquises, des académiciens et pas mal de gens du monde. Mais il y en avait peu, comparé aux 40 000 personnes qui défilaient deux jours auparavant pour les obsèques de Piaf au Père Lachaise. Donc en fait, les groupies de Piaf ne connaissaient pas l'œuvre de Cocteau, ou si peu. Peut-être connaissaient-elles le film La Belle et la Bête, mais c'est à peu près tout. Et de la même manière, les lecteurs de Cocteau n'écoutaient guère les chansons de la môme. Alors en fait, ces deux univers parallèles ne se sont jamais croisés. Personne n'avait eu l'idée jusqu'à présent de les regrouper.
Et Bernard Longeon, comment vous avez découvert cette amitié? Parce qu'elle n'est pas médiatisée, cette amitié. Enfin, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Comment vous avez découvert?
Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, je suis un passionné de l'œuvre protéiforme de Cocteau. J'avais lu notamment les 8 volumes de son journal qui s'appelle Le passé défini. Et dans ce journal, il parle en fait de sa relation avec Piaf. Et puis un jour, mon travail de libraire, de livre ancien et de lettres autographes m'a conduit à trouver des lettres de Piaf à Cocteau dans une vente aux enchères. C'était des lettres qu'elle envoyait depuis les États-Unis à Cocteau. Elle racontait ses tournées, en fait. Et j'ai cherché les réponses à ces lettres. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai reconstruit ce qu'était leur relation amicale depuis cette fameuse rencontre du 12 février 1940. Alors, cette rencontre, le 12 février 1940, elle se passe chez Rachel Breton. Et en fait, la marquise organisait chaque semaine des dîners mondains pour que les gens se rencontrent, bien sûr. Et ce soir-là, furent invités Piaf, son amant du moment, Paul Meurice, et puis Jean Cocteau, qui voulait absolument rencontrer Piaf. Et en fait, entre deux, dès le début, c'est le courant est passé merveilleusement. Et Piaf, à la fin du repas, a demandé à Cocteau s'il pouvait lui
donner son 06. Bon, ça n'a pas marché.
Oui, il avait le 06. Mais vous savez que Cocteau avait déjà écrit plein de chansons, en fait. Il avait écrit déjà plus de 300 chansons entre les deux guerres. Il avait écrit pour Marianne Oswald, pour Sugi Solidor. Et donc, ça paraissait tout naturel. Mais en fait, ce soir-là, il ne dit rien. Mais par contre, quelques jours plus tard, il invite Edith chez lui au Palais Royal. Et là, oh, surprise, il arrive avec ce que vous avez raconté tout à l'heure, cette superbe pièce, Le Bel Indifférent. Et à la fin de l'année 1940, à la fin de l'année 1940, Cocteau écrira une autre pièce de théâtre pour Edith. Donc, c'est dire, c'est le fantôme de Marseille. Voilà.
Mais qu'est-ce qui les a réunis? Qu'est-ce qui fascinait l'autre chez l'un et vice-versa?
Ben, vous savez, ils étaient artistes tous les deux. Ils avaient ce même grain de folie. Edith, en fait, ne savait pas très bien écrire. Elle n'était pas allée à l'école et elle apprenait beaucoup par son contact. Et de son côté, Cocteau, lui aimait beaucoup la chanson réaliste de l'entre-deux-guerres. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il adorait cette voix de Piaf, cette voix de Rossignol, comme il disait. Cette présence tripale qu'elle avait sur scène. Et d'ailleurs, il allait très, très souvent l'applaudir.
Est-ce qu'on peut penser, Bernard Longchamp, que lui, Cocteau, il aimait le côté populaire de Piaf et qu'elle était flattée quelque part que Cocteau s'intéresse à elle parce qui représentait tout ce qu'elle ne connaissait pas de l'élitisme intellectuel, culturel.
Ouais, c'est tout à fait ça. Mais bon, il y a quand même une chose qui les a beaucoup rapprochés, c'est la mort. La mort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça les a rapprochés depuis... Bon, évidemment, il y a eu le 27
octobre. C'était pas
40.
Des joyeux. Lui, il était un peu gay, mais il n'était pas très joyeux quand même, si je puis dire.
Pas très joyeux. Et puis, vous savez qu'il a beaucoup, beaucoup écrit sur la mort également. Ouais. Beaucoup. Bon, son film Le Testament d'Orphée, c'est la mort. D'un point de vue littéraire, il avait écrit La Danse des Morts. Il avait écrit un poème, Le Requiem. Cocteau avait même annoncé, il avait même pas 30 ans, dans le Grand Sommeil, il avait dit, ça démarre comme ça, j'ai une grande nouvelle triste à t'annoncer, je suis mort. Voilà, donc effectivement, c'était pas des joyeux. En fait,
justement, Bernard Longchamp, puisque on parle de la mort, parlons de la mort. Il faut jamais mourir le même jour qu'une immense star.
C'est
et c'est le drame de Jean Cocteau qui est mort le même jour qu'Edith Piaf, parce qu'évidemment, lui, il a occupé moins de place dans les journaux qu'Edith Piaf. C'est le 11 octobre 1963, la France est en deuil. Vous écrivez « À quelques heures d'intervalle disparaissent deux géants, comme si la tendresse qui les unissait devait se poursuivre dans l'éternité ». Est-ce que vous pensez que c'est la nouvelle du décès d'Edith Piaf qui a entraîné la mort subite? En tout cas, si le cœur de Jean Cocteau a lâché à ce moment-là, c'est parce que le choc était trop rude?
Ben oui, en fait, les journaux disaient que la somnambule du grand public avait tué le funambule du tout Paris. Mais en quelque sorte, c'est un peu ça, parce qu'il avait déjà eu deux crises cardiaques et cette terrible nouvelle n'a fait qu'accélérer le coup fatal. Mais quand même, ce matin-là, Cocteau a eu le temps d'écrire un très court texte pour qu'il a dit à la radio. Donc on parle bien du matin du 13 octobre, 3 heures avant de mourir, il a écrit la chose suivante. Comme tous ceux qui vivent de courage, Edith Piaf n'envisageait pas la mort et il lui arrivait même de la vaincre. Seulement sa voix nous reste, cette grande voix de velours noir magnifiant ce qu'elle chante. Mais si cette grande voix me reste, c'est hélas une grande amie que je perds. Alors effectivement, ce sera son dernier adieu et ce sera surtout son ultime texte, ce texte qu'il a écrit pour Piaf. Et 3 heures après, eh bien, Cocteau traversait le miroir pour rejoindre son ami.
C'est très émouvant cette histoire. Merci beaucoup Bernard Longchamp, je rappelle le titre de vos ouvrages. Piaf Cocteau, la môme et le poète aux éditions de l'Archipel et Edith et ses hommes aux éditions du Moment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et pour ceux qui aiment Cocteau et le dessin, comme lui il aimait aussi, je vous conseille de lire une biographie tout en très beau dessin, justement en noir et blanc, Cocteau, l'enfant terrible de Laureline Mathiussi et François Rivière qui vient de paraître aux éditions Casterman.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on évoque les amitiés improbables de l'histoire après Clémenceau et Monet, Piaf et Cocteau. Dans votre portrait 99% vrai, vous évoquez, Mathieu, un binôme encore plus improbable. Mais alors tellement improbable qu'il en devient fascinant.
Oui Stéphane, et encore le terme fascinant est insuffisant. Je dirais que l'existence de cette amitié-là, en s'attaquant aux fondamentaux du bon sens, en balayant toute forme de logique, viole carrément le principe même de la raison humaine. Je vous raconte cet après-midi l'amitié qui unit l'ex-basketteur excentrique Dennis Rodman et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Pour comprendre comment est née cette bromance contre nature, il faut d'abord replonger dans la biographie du leader suprême de la République populaire de Corée du Nord. Une biographie, vous allez voir, j'interviens assez vite en personne, puisque comme vous le savez, Kim Jong-un a fait ses études en Suisse, moi aussi. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on était dans le même collège. Et oui Stéphane, au tournant des années 90, dans le collège UP de la Châtaigneraie, la chatte comme on l'appelait alors, près de Genève, j'étais ami avec celui que vous appelez aujourd'hui Kim Jong-un, mais que nous appelions nous tout simplement Boule Coco, en hommage à ses deux passions, le communisme et la double crème de gruyère. Un jour, j'aurai la bombe atomique et je vous crèverai tous, charogne capitaliste, nous disait souvent Boule Coco, alors que, mutin comme le sont les enfants, nous le suspendions par les pieds au grand noisetier avant de l'asperger de sauce soja en riant. On pensait qu'il déconnait.
Voilà, c'est tout ça, c'est à cause.
J'assume
vous.
Ici la part de responsabilité qui est la mienne dans ce qui est devenu Kim Jong. Comme vous avez pu le lire dans la presse, c'était effectivement un ado rieur qui aimait le basketball, le ski et les films de Jean-Claude Van Damme et qui était aussi passionné par l'univers de Disney. À quoi ça tient, hein ? On se serait pas foutu de sa gueule, on aurait lu Françoise Dolto, on aurait compris que c'était pas une bonne idée de le forcer à jouer à Boule Coco prisonnier, variante sophistiquée et cruelle du ballon prisonnier qui consistait à jongler avec les testicules de Kimi en chantant Pandi Panda jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Mais à culpa Stéphane, car il est probable que sans ces brimades répétées, Kim Jong ne serait pas devenu un dictateur complètement fêlé, autant pour nous. Alors pour Kim, je reconnais, ouais, c'est notre faute. En revanche, je n'étais pas du tout à l'école avec Dennis Rodman, qui d'ailleurs n'est pas allé à l'école, ou pas longtemps. Dennis Rodman, c'est le plus grand bad boy de l'histoire du basket américain, on le surnomme Demolition Man, diablement doué mais aussi diablement déjanté et totalement incontrôlable, il est couvert de tatouages et de piercings. Un soir, la police le découvre endormi dans son pick-up sur le parking d'un stade avec un fusil à pompe chargé. Sur le terrain, il porte le numéro 91, pourquoi ? Eh ben, pour la simple et bonne raison que la ligue interdit les numéros supérieurs à 90 et que emmerder le monde, c'est son dada. Il voit pas non plus d'inconvénient à se faire une petite gâterie sous la table, alors qu'il donne une interview en direct sur CNN. Pratique très risquée, Stéphane le sait, hein, une fois que vous vous êtes fait griller, vous n'avez pas trouvé mieux comme excuse que...
Mais j'ai un petit chauffage d'appoint.
En plus, c'était sur KTO, franchement, ça la fout mal. Sauf, bien sûr, pour un déglingo comme Dennis Rodman, qui était quand même le genre à s'offrir une virée blackjack pute tequila à Las Vegas la veille d'une demi-finale de NBA et d'être élu le lendemain meilleur joueur de cette demi-finale. Et c'est justement le basket qui est à l'origine de l'incroyable amitié Rodman-Boule Coco. Comme tous les ados des années 90, Kim est fan des Chicago Bulls et il rêve de rencontrer Michael Jordan. Moi aussi, mais lui, il est fils de dictateur, ça peut aider. Il tente donc de contacter dans un premier temps Michael Jordan, qui étonnamment ne donne pas suite. Le bouche-trou sera donc, bien des années plus tard, Dennis Rodman qui l'invite à découvrir les mille et une merveilles de la Corée du Nord, pays injustement boudé par les tours opérateurs. Dennis Rodman explique « Si Kim m'a contacté, c'est parce qu'il adore le basket. En fait, il a d'abord demandé à Michael Jordan de venir, mais Michael a dit non et il m'a appelé moi. J'ai dit d'accord, j'aime bien découvrir des coins à travers le monde. » Et oui, il est comme ça, Dennis, c'est un globe-trotteur. En 2013, il achète donc le célèbre Lonely Planet Pyongyang en 3 jours et il part à la rencontre de celui qui va devenir, je cite, « son ami pour la vie ». Un ami dont il dresse le portrait psychologique suivant, je cite « Kim est comme un grand enfant, bien qu'il soit petit. » Alors oui, en matière d'analyse géopolitique, on sent tout de suite que Dennis n'est pas abonné au monde diplo. Hein. Concernant les éventuels scrupules éthiques qu'il pourrait avoir en fréquentant le leader nord-coréen, il déclare, serein, « Je ne m'en tape de qui tu es. Tant que tu es sympa, je suis sympa. Que tu sois président, dictateur ou autre chose. Si tu es cool et qu'on peut boire de la vodka, c'est bon. » Alors là, le journaliste normal aura tendance à vouloir creuser en demandant à Dennis de préciser sa pensée politique. Mais le journaliste qui connaît Rodman, lui, aura la sagesse de ne pas le pousser plus loin sur
non,
le sujet.
C'est pas prudent.
Si vous le poussez plus loin, voilà son analyse, digne d'une envolée de Tonton Bernard à l'issue d'un réveillon trop arrosé. Je cite, hein, « Tout le monde ne parle de ce pays que pour dire des trucs négatifs, les camps de concentration et tout ça. Moi, je vois aussi beaucoup de beauté là-dedans. Les choses changent. Tous les pays ont des camps de concentration. Ça s'appelle des prisons. Donc, ce qu'ils font là-bas, on le fait ici aussi. » Bien, bien, bien. Quelqu'un reprendra du clafoutis, tonton. Bon. Mais justement, une si belle amitié, comment se concrétise-t-elle ? Que font Dennis et Kimi lorsqu'ils se retrouvent ? Eh bien, ils font comme tous les amis du monde, Stéphane. Ils se bourrent la gueule en faisant du karaoké. Kim Jong entonne des airs nord-coréens et Dennis Rodman reprend des standards américains, nous dit-on. Et parfois, ils inversent. Summum du surréalisme, en 2014, Dennis Rodman lui aurait même chanté Happy Birthday to You façon Marilyn Monroe. Ça, on n'a pas de son malheureusement. Cerise sur le gâteau de cette bromance venue d'ailleurs et dont on peine à imaginer d'ailleurs certaines implications concrètes, comme par exemple comment ils terminent leurs conversations téléphoniques qui peuvent durer plusieurs heures. Allez, c'est toi qui raccroches cette fois. Non, c'est toi, Dennis. Non, toi. Allez, on compte jusqu'à 3. Je sais pas compter jusqu'à 3. Ah oui, merde. Alors compte jusqu'à 2, Dennis. En 2014, assez logiquement, Dennis Rodman reçoit le titre d'ambassadeur non officiel des États-Unis en Corée du Nord. Et c'est là, il s'emballe. Ma mission est de briser la glace entre les pays hostiles. Pourquoi cette tâche a été laissée entre mes mains? Je ne sais pas. Nous maintenir en sécurité n'est pas vraiment mon job, c'est celui du gars Black. Le gars Black étant Barack Obama, président des États-Unis alors. Mais laissez-moi vous dire un truc, si je ne finis pas dans le top 3 pour le prochain prix Nobel de la paix, quelque chose ne va sérieusement pas. Il faut croire qu'hélas, chose ne va sérieusement pas, puisque malgré tous les efforts diplomatiques de l'ambassadeur Rodman, la Corée du Nord est toujours aussi isolée sur le plan des diplomatiques, Kim Jong-un toujours aussi soupolé, et le nom de Rodman toujours aussi absent des listes des favoris pour le Nobel de la paix. Il a pourtant tout essayé, jouant de son amitié avec Trump, car oui, Denis est communiste ailleurs, mais républicain chez lui, il a tenté d'être un médiateur entre ses potes Kimi et Donald, se rendant sur les plateaux télé pour promouvoir la paix entre les deux pays, mais... Était-ce la casquette rouge Make America Great Again qu'il arborait, ou bien ce t-shirt vantant les mérites d'une crypto-monnaie finançant l'industrie du cannabis? En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Tant pis pour la paix mondiale, c'était en option. Il leur reste l'essentiel, les karaokés et la vodka, soit les piliers fondamentaux d'une amitié solide, inébranlable même, puisque, comme le dit magnifiquement Dennis Rodman, pour moi, la Corée du Nord, c'est un peu comme mon ex-femme. Tu l'aimes et tu la détestes à la fois, mais tu n'as pas le choix. Il faut vivre avec. Une sagesse qui, je l'espère, inspirera le nouveau président américain. Et en parlant de sagesse, je salue celle d'Olivier Pouls, qui, pour le bien de la relation franco-coréenne, n'a pas sali cette chronique de sa déplorable imitation de l'accent coréen.
En ce moment, on peut parler comme ça. Hein.
Ah mais ça c'est l'hymne de Donald Trump. Mais merci beaucoup Mathieu, c'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux si j'ai bien compté.
Oui, bon, alors vous l'aurez deviné. C'est juste que j'étais pas au collège avec Kim Jong-un, mais il était vraiment tout près. Il était vraiment tout près.
Oui. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. Vous n'étiez pas à la
Châtaigneraie? Non, j'étais pas à la Châtaigneraie, effectivement. Non, moi, j'étais.
Vous étiez à Rolles.
Moi, j'étais dans non, pas du tout. J'étais dans le public, moi, Stéphane.
Le public suisse.
David, je vous interdis. Je vous interdis.
Avançons, le public avançons, suisse, c'est un peu comme le privé chez nous.
Oui, d'accord.
Bon.
Un peu.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il aime le velcro, il aime le béton armé, mais il aime aussi le sport. David Castello-Lopez, chaque jour, l'origine d'une invention, d'une tradition aujourd'hui?
Tout à fait. Aujourd'hui, les origines de... Comment on s'est rendu compte que l'exercice physique, c'était bon pour la santé?
Ça reste à prouver, en plus.
Moi, quand j'étais petit, j'étais frappé de voir comment tout le monde avait des avis très tranchés sur ce qui était bon ou mauvais pour la santé. Par exemple, il fallait pas marcher pieds nus parce que sinon on allait attraper froid. Ce qui veut dire que le froid, c'était pas seulement une température, c'était aussi une maladie, hein, comme le sida. Il fallait pas se baigner après manger parce que sinon on risquait de mourir foudroyé.
Ah, ça m'a traumatisé. Vrai, je me mouille toujours la nuque, moi.
Mais oui,
tout le temps. Mais mes potes se foutent de ma gueule à la plage avant de sauter du bateau.
Oui.
Oh, du bateau du hub.
C'est pas un bateau, Mathieu, c'est un yacht.
Vous, Stéphane,
ça s'appelle un yacht.
Avant de sauter du pédalo.
Mais oui,
bien. Oui, un pédalo l'été. Hop, je me mouille la nuque. Et tout le monde se fout de moi.
C'est ça.
Bien sûr, la fécond. Je les embrasse tous.
Bon, mon père même, il disait des trucs complètement, des choses complètement définitives, comme par exemple, le café au lait, c'est du poison. Voilà, ok. Bon, et ce que j'ai découvert, c'est que pendant longtemps, le lien entre faire de l'exercice et être en bonne santé, ça avait le même statut que tout ce que je viens de vous dire. Il y avait des gens depuis des milliers d'années qui disaient « Ouais, franchement, ça a l'air cool de faire de l'exercice », mais c'était pas prouvé scientifiquement, c'était basé sur rien. Mais aujourd'hui, ça a changé. Le fait que l'exercice, c'est bon pour la santé, et en particulier le fait que ça limite les risques de crise cardiaque, c'est une vérité absolue, comme le fait que fumer, ça donne le cancer, ou que sniffer de l'amiante, ça fait mal à la tête. Mais alors, comment est-ce qu'on a réussi à le prouver à ça, que l'exercice était bon pour la santé? Bon, alors si vous cherchez à savoir si manger des chips au cyanure, par exemple, c'est mauvais pour la santé, ce qu'il vous faut, c'est deux groupes de personnes strictement identiques. Vous dites au premier groupe de manger des chips au cyanure, au second groupe de manger des chips tout court, et vous voyez quel groupe meurt le plus vite. Mais pour l'exercice, c'est vraiment très dur, parce que l'effet bénéfique ou maléfique de l'exercice, il se joue sur des années, voire des dizaines d'années. Donc l'idéal, ce serait d'enfermer des gens dans des cages pendant 30 ans et d'en faire courir certains et pas d'autres. Mais malheureusement...
J'appelle mon ami Kim Jong-un. Oui. À mon avis, il doit pouvoir mener une étude comme ça.
Mais c'est ça, parce que c'est interdit, ça, parce que visiblement, ce serait une attitude nazie. Voilà, bon, voilà. Mais bon, dans les années 40, il y a un épidémiologiste anglais qui s'appelle Jerry Morris et qui a eu une idée. Il s'est dit, les bus anglais, là, rouges, là, à deux étages, qui c'est qui travaille dedans? Bon, en gros, il y a deux types de gens. Il y a d'une part les conducteurs qui restent assis toute la journée, et d'autre part les contrôleurs qui courent dans tous les sens d'un étage à l'autre du bus. Et il s'est dit, mais vas-y, je vais regarder s'il y a un groupe qui a plus de crise cardiaque que d'autres. Et ben la réponse, c'est oui. Les contrôleurs qui couraient dans tous les sens, ils avaient deux fois moins de chances que les conducteurs d'avoir une crise cardiaque. Et après, il s'est dit, non, mais c'est ouf. Et il a vérifié ses résultats en faisant la même étude sur les services postaux anglais. Il a comparé les facteurs qui distribuaient le courrier à pied ou à vélo avec les gens qui triaient les lettres à la poste. Et bah,
pareil, même résultat. Et il a publié ses recherches en 1953 dans un des journaux scientifiques les plus prestigieux du monde, qui s'appelle The Lancet. Et c'est assez dingue, mais au départ, il y a eu des gens qui ont dit, vraiment, l'exercice et les crises cardiaques, je veux dire, je vois pas le rapport, quoi. Et depuis, non seulement on sait que l'exercice, c'est bon pour ne pas mourir d'une crise cardiaque, mais c'est aussi bon pour un milliard d'autres choses, hein, l'attention, l'énergie, le sommeil, la lutte contre le cancer, le diabète et mille autres choses. Et il y a un truc assez formidable quand même, c'est que Jerry Morris, il a appliqué ses trouvailles à lui-même. Et à partir des années 60, un moment où personne encore le faisait, il a commencé à faire du jogging. Et il a jamais arrêté de faire
du
l'exercice.
Dans les années 60, personne ne faisait du jogging.
Très, 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 très peu. Très, très serré. Je ferai les origines du jogging, si vous voulez.
Ah, s'il vous plaît.
Oui, oui.
Et mais pas du pantalon.
Et aussi, si vous voulez, ça sera
une autre histoire. J'imagine que c'est le même moment, Stéphane. Réfléchissez un petit peu.
Et Jerry Morris, il a jamais arrêté de faire de l'exercice et il a vécu jusqu'à 99 ans et demi en parfaite santé. À 99 ans, il travaillait encore.
Et là, je vois Pouce qui blémit, qui comprend enfin que le sport, effectivement, peut l'aider à vivre plus
c'est
mieux.
Bon,
mais c'était
santé,
super
oui.
mal vendu, sa chronique. Il nous a expliqué que c'était pas forcément bon. Quoi, moi, je le croyais,
compris,
moi.
Il avait compris, on parlait. Sa chronique, c'était à quel moment on a réalisé que c'était bon. Il n'y a plus de débat là-dessus.
Il n'y a plus de débat. C'était une vérité absolue. C'est une vérité absolue maintenant.
Ah, moi, j'étais sur la,
non,
sur
non,
la ligne Winston Churchill.
C'est fini, non. Olivier. C'est fini. La science a parlé, la science a tranché, la science portugaise, en tout cas.
Mais bah donc, il faut que je me commande un jogging.
Voilà. Oui, voilà, voilà. Enfin, non, mais après, on peut décider de vivre moins longtemps. C'est une option tout à fait valable.
Agréablement. C'est la politique d'Olivier Pouls.
En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Des amis, j'en ai beaucoup, mais des amis aussi précieux, c'est rare. Voyez Stéphane, avec Olivier Pouls, le truc, c'est qu'on a les mêmes goûts, la même obsession dans la vie.
Le sexe féminin.
Non, en un, on a la bouffe. Chaque jour, Olivier nous raconte l'histoire d'une recette qui nous est chère. Aujourd'hui, une recette qui va nous diviser, puisqu'apparemment, j'ai beaucoup mangé d'île flottante, mais ce n'était pas vraiment de l'île flottante. D'où vient l'île flottante? Pourquoi cette polémique? Restez sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'était le fil conducteur qui unissait tous nos personnages du jour, de Clémenceau à Kim Jong-un, en passant par Jean Cocteau et Dennis Rodman. Mais au fond, Stéphane, qu'est-ce que l'amitié? Eh bien, je crois que l'amitié, c'est quand un ami vous confesse un souvenir douloureux de son enfance, ne pas se moquer en insinuant des choses salaces. L'autre jour, Olivier Pouls a pu découvrir qui de vous ou moi était un véritable ami.
Moi, je me suis battu une fois à cause de ça. Ben, un gars, il n'arrêtait pas de m'enlever mes scratchs et je me suis battu.
Et pourquoi il voulait vous enlever vos scratchs?
Voilà, moi, je n'insinue rien de salace, je suis juste solidaire. C'est ça, un ami, Stéphane, prenez-en de la graine. Bref, Olivier, racontez-nous l'origine de l'île flottante.
Eh bien, les amis, vous avez forcément un jour ou l'autre commandé probablement une île flottante au restaurant. Et qu'est-ce qu'on vous a servi?
Une île flottante.
Ah ben, décrivez-moi ce que vous aviez devant vous.
D'abord, ça nageait dans de la crème anglaise.
Oui, qu'est-ce qui nageait dans la crème anglaise?
Des œufs battus en neige. Des œufs battus en neige, absolument.
Ben voilà. Comme...
Qui flottait au milieu de cette mare de crème anglaise.
Avec peut-être un peu de caramel par-dessus et des amandes effilées.
Voilà, voilà, c'est ça.
Eh bien, comme dans 99,9% des cas, ce que vous avez mangé, ce n'est pas une île flottante, mais ce sont des œufs à la neige. C'est une autre recette, car l'île flottante, l'authentique recette de l'île flottante, elle a été inventée par le grand cuisinier Auguste Escoffier à la fin du 19e siècle. Il l'a décrit d'ailleurs dans son livre qui a fait référence, et ça n'a rien à voir.
C'est une île en terre.
Qu'est-ce que c'est?
Et c'est dégueulasse, en fait.
Alors, pas du
ça
tout.
Ça n'a aucun intérêt.
Il s'agit tout simplement d'une recette qui est composée d'un biscuit de Savoie.
Attendez, c'est quoi un biscuit de Savoie? C'est comme le gâteau de Savoie?
Oui, c'est exactement la même chose.
Donc c'est une génoise
en quelque sorte, qui est marinée dans du kirsch et du marasquin, ensuite recouverte de confiture d'abricot avec quelques raisins secs et amandes effilées, recouverte ensuite de chantilly et servie effectivement sur un lac de crème anglaise.
Mais ça flotte vachement moins.
Ça flotte
ça
vachement
coule,
moins.
Même. C'est une île engloutie.
Alors, je vous cache pas que je pense qu'elle est bien immergée et que c'est le fond de l'assiette qui la retient.
Hein. Oui. D'accord.
Oui. Et en réalité, cette recette, que pratiquement plus aucun cuisinier ne réalise encore aujourd'hui, est la véritable recette authentique de l'île flottante. Et au cours du XXe siècle, d'abord parce qu'elle est assez compliquée à faire, eh bien, dans les bistrots, dans les restaurants, on s'est mis à confondre ces deux recettes et à prendre finalement des œufs à la neige pour l'île flottante. Alors, il y a un point commun, c'est la crème anglaise qui est servie et qui sert de décor de fond d'assiette. Et au-dessus, évidemment, il y a quelque chose qui est posé. Alors, la vraie recette des œufs à la neige, elle apparaît même bien avant, elle apparaît au XVIIIe siècle. Et donc, c'est l'utilisation des œufs en deux formules, en quelque sorte, puisque vous avez d'un côté la crème anglaise. La crème anglaise, c'est des jaunes d'œufs qui ont été mélangés avec du lait chaud et on cuit tout ça et un petit peu de vanille de manière à épaissir la préparation et un peu de sucre aussi. Et puis, bah, il y a les blancs qui, eux, sont montés en neige et qui sont normalement pochés dans du lait. Et ensuite, vous versez un tout petit peu de caramel par-dessus et quelques amandes effilées. Et là, vous avez des œufs à la neige. Mais pour l'île flottante, c'est tout à fait autre chose.
Vous avez donné la vraie recette de l'île flottante.
Eh bien voilà, vous prenez un biscuit de Savoie ou une brioche. Si bon, le biscuit de Savoie ou le gâteau de Savoie, comme vous dites, hein, c'est un petit peu comme une brioche, ce qu'on appelle une génoise.
C'est pas tout à fait pareil. Hein.
Pas tout à fait, mais c'est très ressemblant.
Je vous trouve très imprécis là-dessus.
Légèrement rassis aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop fraîche. Donc vous allez l'imbiber de kirsch et de marasquin, 5 centilitres à chaque fois. Vous recouvrez chaque tranche d'un petit peu de confiture d'abricot. Vous mettez des raisins secs, des amandes effilées. Vous reconstituez le gâteau. Vous mettez par-dessus de la crème chantilly. Vous l'enrobez bien de crème chantilly. Mmh. Encore quelques petites pistaches et quelques raisins. Et puis, vous versez tout autour votre crème anglaise. Et vous avez là une authentique île flottante dans les règles de l'art telles que l'a proposé Auguste Escoffier.
Eh bien voilà, les pendules sont remises à l'heure.
Ça donne très envie. Là, mes papilles sont en émoi. En tout cas, merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Avec Stéphane, nous sommes, je crois qu'on peut le lire, copains comme cochons, même si on ne les a pas élevés ensemble. Oui, la langue française regorge d'expressions étonnantes quand on y réfléchit. Heureusement, Stéphane est là pour tout nous expliquer. Le mot de la fin arrive avec aujourd'hui quelle expression, Stéphane ? Une expression qui vous est familière, je crois.
Non, pas tellement, mais en tout cas, quand on parle des élections, par exemple, on en parle souvent, se prendre une veste.
Ah,
pourquoi
oui.
Cette expression ?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les mots ne sortent toujours pas de sa bouche dans le bon ordre, c'est vrai, mais par défaut, sachant qu'à cette table, il y a un Suisse, un Belge et un Portugais, Stéphane Bern est néanmoins notre référent linguistique. Voici le mot de la fin de Stéphane Bern, chaque jour l'origine d'un mot ou d'une expression.
Oui Mathieu, je ne sais pas si plus jeune, vous aviez le même succès que vous avez aujourd'hui envers la gente féminine en général et nos consoeurs d'Europe 1.
Mais je vous en prie Stéphane, qu'est-ce que c'est que ce lancement ?
Les stagiaires, vous voulez dire ?
Mais calmons-nous.
L'expression du jour, sociale. Quoi qu'il en soit, sera prendre une veste.
Oui, alors arrêtez de colporter des rumeurs infondées à mon égard. Prendre une veste, il y a prendre un râteau aussi.
Oui, mais le râteau, je vous le laisse. Prendre une veste, d'où vient cette expression ? Fin du 19e siècle, il existe un jeu de cartes appelé le capot. Le but est de mettre l'adversaire capot, qu'il ne fasse aucun pli. Dès lors, cela vous donne capoté. Mmh. Et pendant l'occupation allemande, nos adversaires nous emprunteront d'ailleurs le terme et ça donnera capoute.
Capoute.
Parallèlement, la capote, avant d'être un moyen de contraception, était au XVIIe siècle un grand manteau. Pendant la Grande Guerre, c'était une longue veste portée, notamment par les soldats de l'infanterie, à laquelle on pouvait ajouter, en temps de pluie, un capuchon. On revient donc à la capote. Voilà, d'un côté, on disait dans le jeu, en cas d'échec, prendre capot, et de l'autre, la capote était une veste. Une expression qui est devenue tellement évidente pour tout le monde, on a mélangé les deux en quelque sorte, et c'est, eh bien, capoter, c'est prendre une veste.
Et dans les autres pays, alors, j'ai tout à fait saisi, Stéphane, et dans les autres pays, comment ça se passe ? Est-ce que tout le monde prend des vestes ?
Non, alors il y a plein d'autres expressions, toutes plus imagées les unes que les autres. En Angleterre, on dit « to take it on the chin », se prendre ça sur le menton. En Hongrie, on tombe sur le nez. Aux Pays-Bas, on prend un savon. Je sais pas pourquoi.
On prend un savon.
En Espagne, c'est recibir calabazas. On reçoit des...
J'adore quand vous essayez de faire le... Plus vous faites l'accent, plus c'est merveilleux, Stéphane. Oui.
Ouais.
On reçoit des quoi?
C'est débile, je sais. On reçoit des citrouilles. Ah. Je vois pas le rapport. En mention spéciale pour nos amis québécois. Où là, on se fait revirer dans ses culottes.
Revirer dans ses culottes. Là, il n'y a pas eu de tentative d'accent. L'accent québécois, c'est...
Non, revirer dans tes culottes.
Oui, c'est, on vous renvoie, en quelque
12,
sorte.
12 sur 20.
On vous renvoie dans vos culottes.
Quoi. Bravo Stéphane. Ouais. David, pour finir, en portugais, comment on dit ? Prends une veste.
Franchement, je saurais pas. J'ai pas l'expression idiomatique.
Vous n'avez jamais pris de veste en portugais.
Non,
là, comment on le dit.
Vous n'avez jamais pris de veste.
Pas au Portugal.
La balle dit toujours oui.
Non, j'ai pas eu d'histoire au Portugal. C'est vrai, je crois que je commence.
Historiquement vôtre, dédié aujourd'hui aux amitiés les plus improbables de l'histoire, s'achève. Pas comme notre amitié, j'espère, Stéphane.
Ah bah non, elle ne fait que commencer, Mathieu.
Vous qui savez tout, Stéphane, vous qui avez même le bras si long, qui paraît que vous-même chatouillez Brigitte Macron sans quitter ce studio.
Mais arrêtez avec ça.
Dites-nous ce qui nous attend demain, pas politiquement, juste dans l'émission.
Eh bien demain, voyez-vous mon cher Mathieu, on réunit trois grands magiciens de l'histoire qui se croiseront pour la première fois, comme par magie. Jean-Eugène Robert Houdin, Harry Houdini et David Copperfield. Tout ça en présence d'un autre très grand magicien.
Moi, c'est gentil de dire ça, Stéphane. Ça me fait
encore plus grand que vous. Éric Antoine. D'abord, c'est un vrai magicien. Il est très grand et c'est un véritable humoriste aussi.
Bien entendu, j'avais compris. Si l'émission elle-même est aussi réussie que votre énoncé de son sommaire, alors ça sera un grand jour pour les auditeurs d'Europe 1, pour nous et même pour la France, Stéphane.
Oui, merci beaucoup.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.